إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد On s'était arrêté au hadith numéro 11. On l'a pas terminé, n'est-ce pas? Hein? معنى الإجمالي. طيب. Donc on s'était arrêté au hadith numéro 11. Bon, je répète le hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Donc d'après Abu Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: Allah aime pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Il aime pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer et que vous restez réunis, unis, cramponnés autour de la corde du câble d'Allah, de la religion d'Allah, et que vous ne vous divisez pas, et que vous conseillez ceux qui ont autorité sur vous. Et il déteste trois choses pour vous. De trop parler, qu'il wa qal, c'est de raconter, rapporter tout ce que vous entendez, hein, de parler pour rien, futilement, de trop poser de questions, ou de questionner les gens, de leur demander, de demander les richesses ou les biens des gens, de montrer sa pauvreté aux gens, et de dépenser d'une façon mauvaise ou une forme de gaspillage dans la dépense de l'argent et des richesses. Al-ma'na al-ijmali. Donc nous avons commencé l'étude de ce hadith, comme l'a expliqué le grand savant, le Cheikh Rabi, hafidhahullahu ta'ala. Puis il termine par le sens global, le sens général du hadith, c'est-à-dire les leçons importantes à retenir de ce hadith. Fi hadha al-hadith isharat nabawiyya 'azima. Donc il y a plusieurs signaux importants dans ce hadith. Fa awwaluha, le premier, al-hathu 'ala at-tawhid al-khalis wal-qiyam bi a'zami huquqillah وأعظم واجبات الإسلام وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il y a un engouement, un encouragement, un ordre d'appliquer le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, sincère, c'est le fait de s'acquitter du plus grand devoir, du plus grand droit parmi les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala, est le plus, la plus énorme des obligations de l'islam, qui est d'unifier Allah seul dans l'adoration, qui est la raison, le but pour lequel Allah a créé les djinns et les hommes. Comme Allah, le Très-Haut, nous le dit dans le sens du verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il lui, il est le créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout, rien ne lui échappe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la raison pour laquelle il nous a créés, pourquoi il nous a mis, il nous a donné existence sur terre. C'est pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif. Qu'on ne donne aucune adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est son plus grand droit. Un droit qui est réservé exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Un droit qui passe avant tous les autres droits. Le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, exclusif, qui est son adoration sans rien lui associer. Un droit, comme vous le savez tous, qui est bafoué, qui n'est pas respecté depuis très longtemps. Combien adorent autre que Allah, tabaraka wa ta'ala? Combien vous des cultes à autre que Allah, azza wa jal? Ils associent Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils n'ont aucune raison d'être associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a envoyé des prophètes et des messagers, a fait descendre des livres pour rappeler aux gens le but de leur création, qui est de l'adorer seul, sans rien lui associer. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la mission des prophètes et des messagers. Nous parle de la discussion, de la polémique, des guerres, des batailles qu'il y a pu y avoir entre les messagers et leur peuple qui n'ont pas voulu répondre favorablement à l'appel de ces prophètes et au rappel de ces prophètes de n'adorer que Allah seul sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met l'accent sur une des grandes causes de cela, c'est qu'ils les gens, les peuples écoutent leurs références religieuses qui les égarent du droit chemin, qui ne leur donnent pas la bonne réponse aux questions, qui les font dévier. Alors qu'au même moment, il y a des gouvernants qui peuvent être dictateurs, qui peuvent être mauvais, oppresseurs, massacreurs. Mais l'accent, il est mis sur ces égareurs au nom de la religion. Ça, c'est un point important à se le rappeler. Allah tabaraka wa ta'ala pouvait nous parler de ces gouvernants qu'il y avait dans ces époques-là, de citer leurs noms, de nous dire les oppressions qu'ils ont commises, les massacres qu'ils ont commis. Mais plutôt, l'accent était mis sur les référents religieux. Parce que ces gouvernants ou ces autorités, mauvaise soit-elle, en général, les gens ne confondent pas leurs agissements avec la religion. Les gens ne disent pas l'autorité ou le gouvernant a fait telle chose, c'est que la religion le demande. Et en général, ces gouvernants n'associent pas leurs actions à la religion, contrairement à ces références religieuses. Ces gens qu'on prend comme élites religieuses, qui eux, égare les gens. Et c'est pour cela que dans l'islam, il nous est demandé de patienter et d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala si on a besoin de demander un droit qui ne nous a pas été reconnu ou donné, mais au même moment d'écouter et d'obéir à l'autorité et au gouvernant. Et de l'autre côté, l'islam nous enseigne de mettre en garde et de prévenir contre les imams égareurs, les prêcheurs qui sont aux portes de l'enfer. Ça, c'est une des réponses à ceux qui disent, qui veulent qu'on parle sur les gouvernants d'une manière non légiférée, et qui s'étonnent qu'il y ait des mises en garde ou des avertissements contre les prêcheurs du faux. Ces gens qui sont étonnés, s'ils sont sincères, honnêtes, qu'ils reconnaissent que leur étonnement n'est que le fruit de leur ignorance. Ils sont étonnés parce qu'ils ne connaissent pas la voie des pieux prédécesseurs. S'ils connaissaient la voie des pieux prédécesseurs, ils ne seraient pas étonnés. Parce que dans les chapitres des ouvrages, des recueils, dans lesquels sont compilés les fondements des gens de la Sunna, il y a ces chapitres. Le chapitre du comportement, de la position à avoir envers l'autorité du pays. Et de l'autre côté, il y a des chapitres concernant la position à avoir vis-à-vis des innovateurs et des prêcheurs à l'innovation. Des chapitres de la mise en garde contre les innovations et ses adeptes. Mais les gens, souvent, sont animés par leur ignorance. Pire encore, lorsque l'ignorance est considérée par ces gens comme étant de la science. Hein? Son ignorance, il croit que c'est de la science. Wal'iyadu billah. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé tous les prophètes, tous les messagers pour inviter les peuples à l'adoration d'Allah seul, l'unique, et l'éloignement de tout ce qui est adoré en dehors de lui, Azza wa Jal. والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل لأن هذه الأمور حق خاص لله لا يرضى أن يشاركه فيها ملك مقرب Wala nabiyun mursal. Donc, il y a aussi l'enseignement, l'ordre de s'éloigner de toute forme de polythéisme dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le serviteur n'associe personne, rien à Allah parmi les créatures et tout ce qui est en dehors d'Allah, quel qu'il soit ou quoi que ce soit, est une créature. Allah, il est le créateur. Et tout ce qui est en dehors de lui est une créature. Et en faisant cela, celui qui donne ou qui associe à Allah une de ses créatures, il en a fait un semblable, un égal à Allah Azza wa Jal. Que ce soit dans l'invocation, al-du'a. Et dans le hadith, il est bien dit, al-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Une des plus grandes adorations, c'est l'invocation. Donc, on interpelle personne, si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. On n'invoque personne, on ne prie personne, si ce n'est Allah, azza wa jal. Ni la recherche de secours dans les moments difficiles, d'extrême, on ne reconnaît que Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce qui est étrange, c'est que les polythéistes avant l'islam, ils étaient reconnus comme polythéistes. Allah tabaraka wa ta'ala les a considérés comme polythéistes. Son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme des polythéistes. À l'exemple de Quraysh, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils croyaient en Allah, ils reconnaissaient l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'associaient rien à Allah dans sa seigneurie. Ils reconnaissent que Allah, il est le créateur, celui qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort. Ça, c'est que Allah. Il n'y a personne avec lui. Sur ça, il n'associe personne à Allah, Azza wa Jal. Mais ça ne suffit pas pour devenir croyant. Mais dans l'adoration, il reconnaissait d'autres divinités en dehors d'Allah. D'autres créatures, parmi les statues et autres, avaient le droit de recevoir des adorations. Et il prétendait, et ils légitimaient leurs actions en disant qu'on ne les adore pas pour elles-mêmes, mais pour qu'elles nous rapprochent d'Allah, pour qu'elles intercèdent auprès d'Allah en notre faveur. Mais tout cela n'a pas été accepté. Et ces excuses n'ont pas été acceptées. Et elles ont été considérées comme des polythéismes. Et au même moment, ils ne faisaient cela que dans les moments facile, simple, pas dans les moments extrêmes, lorsqu'ils savaient qu'ils étaient dans une situation extrême de difficulté, alors à ce moment-là, ils reniaient tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils invoquaient sincèrement Allah seul. Comme lorsqu'ils étaient en mer, dans le bateau. Il y avait la tempête, les vagues. Pour eux, ils pensent que c'est fini. À ce moment-là, ils ne reconnaissent plus aucune statue. Ils invoquent Allah sincèrement. Dans la communauté musulmane, on aura beaucoup de gens qui, eux, ont dépassé Quraysh. Dans les moments faciles et extrêmes, ils invoquent les saints en dehors d'Allah. Et encore plus, ils font preuve de sincérité envers les saints dans les moments difficiles. Et ils les appellent en dehors d'Allah. Comme certains savants expliquent, Quraysh avait compris clairement la signification de la ilaha illallah, mais ils n'ont pas voulu la prononcer parce qu'ils ont bien compris qu'en la prononçant, en la formulant, ils devraient quitter toute adoration de n'autre que Allah. Et des personnes appartenant à la communauté musulmane plus tard, eux, ils la prononcent et la formulent, mais ils en ignorent totalement la signification. Que dire lorsque c'est des personnes qui prêchent, qui eux ont besoin de prêche, à l'instar des Jama'at al-Tabligh, qui se lèvent et qui voyagent, qui prennent des sacs, se fatiguent, et à la fin pour tromper les gens dans la base même de l'islam, en leur faisant croire que la ilaha illallah, il l'explique par la seigneurie. L'explication qu'il donne de la ilaha illallah, il l'aurait fait, dit à Quraysh, Quraysh les aurait pris dans les bras. On est d'accord. Il n'y a pas de problème, pas de souci, on accepte. Allah, il est le seul créateur, le seul qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quraysh n'a jamais dit le contraire. Alors, il est où le problème ? Il faut approfondir et étudier cette parole qui est la clé de l'islam. Que veut dire réellement la ilaha illallah ? Quel était le grand souci entre les peuples et les prophètes ? C'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Et l'unicité d'Allah dans la seigneurie amène à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Si vous reconnaissez qu'Allah, il est le seul dans sa seigneurie, pour quelle raison vous vouez un culte à autre que Allah, puisqu'il est l'unique dans sa seigneurie? La seigneurie doit amener à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, et ni dans l'égorgement, le sacrifice des bêtes, al-dhabh, c'est un acte d'adoration qu'on ne doit faire que pour Allah Azza wa Jal. Ni le serment ou un engagement pris, un nadr, c'est un engagement. Tu t'engages devant Allah en disant que si Allah il te donne telle chose, il te guérit, alors tu feras telle ou telle adoration pour lui ou telle action pour lui. L'espoir, la peur, la recherche de refuge, tous ces actes d'adoration, on ne les voue qu'exclusivement à Allah. Azza wa Jal. Car ce sont des points réservés spécialement, exclusivement à Allah, et Allah n'aime pas qu'on lui associe qui que ce soit là-dedans, même pas les meilleures des créatures, que dire des autres, même pas un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. Alors les gens trouveront, essaieront de trouver tout moyen pour faire dévier les gens de la vérité. Et parmi les moyens entrepris, c'est de coller aux gens de la vérité des étiquettes, parmi lesquelles vous, vous détestez les saints, vous détestez les vertueux, vous détestez les hommes pieux. hein, pour faire fuir les gens, des gens de la vérité. Tu leur dis qu'il ne faut adorer que Allah seul, ils disent tu es un wahhabi. Ça c'est un terme que pendant près de 200 ans ou un peu plus, ça a été employé, propagé par les Ottomans pour éloigner les gens de la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Mohammed ibn Abdul Wahhab, alayhi rahmatullah, ce grand savant, ce grand cheikh qui a vécu au 13e siècle de l'Égypte, au 18e siècle du calendrier grégorien, n'a rien ramené de nouveau. Il a étudié sa religion, il a voyagé. Donc, il a vu ce qu'il y a dans les textes religieux, l'islam pur qu'il y a dans les textes religieux. Et il a vu la situation des communautés musulmanes, que ce soit en Arabie, dans la région du Najd, ou la région du Hijaz, dans laquelle il y a Mecca et Medina, ou que ce soit en Syrie, ou que ce soit en Irak. Ce sont les régions dans lesquelles il a voyagé et il a étudié. Il a vu la contradiction qu'il y a. Et il a vu aussi la complicité qu'avaient certains référents religieux là-dedans, qui ne disent pas tout la vérité, entre ceux qui appellent à ces actions mauvaises et ceux qui sont conscients de ces interdictions, mais qui n'osent pas contredire la masse. Et il a pris cet engagement de prendre cette mission, car les savants sont les héritiers des prophètes. L'héritage, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la matière, c'est le savoir, c'est les textes religieux, la révélation qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est conscient que les prophètes, dans leur mission, ils font face à beaucoup d'obstacles. Et leurs héritiers, d'eux-mêmes, ils font face à des obstacles. Et donc, il a fait ce prêche. Il était dans une région, originaire d'une région qui n'était pas dominée. On les a laissés à eux-mêmes. C'était des tribus. Ils se débrouillaient tout seuls. Chaque tribu, elle était maître dans son territoire. C'était des petits émirats. Les Ottomans, qui étaient les sultans qui gouvernaient la plus grande partie du monde musulman, ça allait de l'Asie jusqu'en Algérie, pour dire les territoires d'aujourd'hui, jusqu'en Algérie, c'est un grand territoire, et dedans ils avaient la Mecque et Médine, mais la région de Najd, elle était délaissée. Les sultans ottomans ne s'intéressaient pas à ce désert. Ça, c'est une réponse à ceux qui essaient de trouver des parades, en mentant, a'udhubillah, même ils mentent sur l'histoire. Subhanallah, tout le monde sait que le territoire était délaissé, on les a laissés à eux-mêmes, c'était des tribus qui se gouvernaient elles-mêmes. Le sultanat ottoman n'avait pas d'emprise là-dessus, il ne s'intéressait pas. Donc on nous dit quoi? Mohammed Abdel Wahhab s'est soulevé contre, faux, puisque Mohammed Abdel Wahhab a cherché une autorité qui pourrait l'appuyer dans son prêche. Et il y a des émirs qui lui ont donné le soutien, mais vu les obstacles, ils ont laissé tomber. Et ils lui ont dit, on ne peut pas te soutenir. Puis, il a trouvé un des émirs qui s'appelle Mohammed ibn Saoud, un émir de son territoire. Et il a accepté. Il a entendu l'appel de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a été intéressé. Il a vu que c'était la vérité. Et il lui a dit, je te soutiens dans ton prêche. Il a trouvé une autorité qui va le soutenir dans son prêche. Voilà. Et puis, donc après, il y a eu ce qu'il y a eu. Il faut connaître l'historique de la chose et ne pas mentir ou de propager des mensonges. Subhanallah. Il faut arrêter d'être dans un monde imaginaire. La réalité, parfois, elle est tout autre. Al-Muhim, ils ont propagé ce mot-là, Wahhabi, pour faire peur aux gens. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle école, une nouvelle conception de l'islam, et ainsi de suite. Que du mensonge. Qu'est-ce qu'il a ramené Mohammed Abdul Wahhab? Il a demandé quoi aux gens? Arrêtez d'adorer les tombes. Laissez tranquilles les morts dans leurs tombes. Invoquez le vivant qui ne meurt pas. Il a appelé à quoi? Subhanallah. Le tawhid. L'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pure. Les tombes, vous les visitez, c'est vous qui invoquez Allah pour eux. Eux, ils ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est fini. Le vivant peut aider les morts en invoquant Allah en leur faveur. Mais les morts sont, ils ont quitté ce monde avec leurs œuvres. Mais ils ne veulent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, une des grandes questions qui les intéresse, les ennemis de la sunna et du tawhid, c'est de récupérer les cimetières. C'est rien d'autre. Toute cette attaque, à tort ou à raison, contre ce pays du tawhid, c'est seulement parce qu'ils veulent les tombes. Ils veulent reconstruire les mausolées et les adorer en dehors d'Allah. Ils veulent adorer les sahaba. Ils veulent adorer le prophète, alayhi salam. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on leur laisse le champ libre. Allez-y, faites ce que vous voulez. Tournez autour de la tombe. Ramassez les pierres et la terre qu'il y a. Cherchez la bénédiction là-dedans. Passez des nuits entières auprès de la tombe. Racontez-lui vos problèmes. Demandez-lui de l'aide et du secours. C'est ce qu'ils veulent. Et dans les pays ou les régions où on les a laissés faire, on voit très bien le résultat. Allez dans les anciennes villes centenaires ou millénaires, Le Caire, Damas, au Maghreb, en Égypte et ainsi de suite. Regardez, en Irak, en Asie, regardez qu'est-ce qui se passe. Au Caire, le cimetière, c'est un cimetière qui rassemble les morts et les vivants. Je parle des corps. Les morts et les vivants. Il y a plus d'un million d'habitants dans le cimetière du Caire. Ils habitent en plein milieu des tombes. Il y a même des commerces, les voitures elles passent, les taxis. Ils sont en plein milieu des tombes. Et ils veulent la grandeur et la puissance. En faisant tout le contraire du message du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Wa thaniha, deuxièmement, الاعتصام بحبل الله وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة وما حوته تعاليم الرسول من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. De se cramponner, de se rattacher au câble d'Allah, qui est le message avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme livre et sunnah, le livre, le Coran, la sunnah, les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de revenir à sa propre personne, de le voir comment il applique, de le questionner, de l'écouter pour prendre de lui alayhi salatu wassalam, et après sa mort alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a laissé comme héritage, les hadiths que nous ont transmis ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, les hadiths authentiques du prophète, alayhi sallatou wassalam, qui comportent les paroles, les actes et les approbations du prophète, alayhi sallatou wassalam. Est-ce que contient les enseignements du messager, comme croyance, adoration, comportement et actes relationnels? فلا يسع مسلما لا فردا من افراد المسلمين ولا طائفه من طوائف المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الاسلاميه ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من اصول الاسلام او فروعه. Donc il ne doit pas y avoir, c'est une interdiction formelle à tout musulman, une personne particulière ou toutes les personnes de la communauté, une partie parmi les parties des musulmans, une communauté parmi les communautés islamiques, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés parmi les musulmans, personne n'a le droit de outrepasser ou de sortir à l'encontre des fondements ou des branches de la religion de l'islam. Tout le monde en tant que musulman est concerné par ces enseignements. بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدي. Il est même un devoir pour tous les musulmans, tous sans exception, d'avoir la foi parfaite et d'appliquer tout ce qui nous est parvenu du sceau des prophètes, du dernier des prophètes et de l'élite, du maître des messagers, et de faire passer son enseignement devant toute parole et toute voix. Ça, c'est une des bases de l'islam. Et c'est ça l'islam. Et combien cherchent la puissance, la grandeur, la réussite en cherchant un, par le biais d'un chemin tout autre que celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu leur demandes quel est le meilleur chemin et tu dis c'est le chemin du prophète. Quelle est la voie du salut? C'est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la vie de tous les jours, ils cherchent d'autres chemins. Il ne s'arrête pas à la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Le parti, la secte dont il en fait partie, il a fait passer avant celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Avant les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. L'obéissance qu'il donne à celui qu'il a prêté allégeance, alors que prêter allégeance en islam n'existe que pour le gouvernant. Que pour le gouvernant. On ne prête allégeance, directement ou indirectement, que pour l'autorité du pays. C'est tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays dans un pays. Il y a une autorité et on est tous les sujets de ce pays. Et on est les citoyens de ce pays et l'allégeance, elle est faite pour ce gouvernant. L'écoute, obéissance à l'autorité du pays. Aucune autre personne, même pas un imam, ni un chef de parti quelconque, ni un maître, je ne sais de quelle confrérie, ne mérite une allégeance qui est tout contraire aux enseignements de l'islam. Toutes les sectes, en règle générale, ils font l'allégeance à leur maître. Et ils lui promettent, ils s'engagent de l'écouter, de lui obéir. Et son écoute et son obéissance, elles passent avant l'autorité du pays. Subhanallah. Que ce soit Jama'at al-Tablir. Jama'at al-Tablir, ils ont l'allégeance. Ils la font à l'émir. Et les émirs, ils le font à l'émir du monde. Ils ont un émir qu'ils appellent l'émir du monde. Il est en Inde. À Nizam al-Din. À côté de Delhi. Ils lui font l'allégeance. C'est l'émir du monde. Après, sous son autorité, il y a des émirs. Dans les continents, dans les pays, dans les régions, dans les villes, dans les quartiers. Il y a les émirs. Tout ça, c'est une pure invention. Les soufis, les sectes et les confréries soufis, les adeptes, ils font l'allégeance à leur maître, à leur sidi. À leur maître, ils lui font l'allégeance. Et ils disent même, tu te dois d'être devant ton maître comme un mort devant celui qui le lave. Celui qui lave un mort, le mort ne bouge plus. Subhanallah. Tu peux faire ce que tu veux avec le corps. Eh bien, il te demande d'être comme ça devant ton maître. Wal'iyadu billah. Jamais le prophète n'a enseigné cela. Ce ne sont que des innovations. Les frères musulmans, pareil. Pas un nouveau qui vient de rentrer dans le mouvement, qui est là que pour donner coup de main ou pour aider. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, comme on dit. Lui, il n'est pas au courant. Il va dire, mais moi, j'ai jamais vu ça, oui. Mais dès que le jour viendra, et qu'on sait que tu pourras être quelqu'un d'important dans le mouvement, là, on va te montrer des choses. Si on te les montre aujourd'hui, tu risques de quitter et d'aller raconter tout ça aux gens. C'est une fois que tu es acquis, qu'on peut te faire confiance, et que tu garderas le silence, qu'on t'emmènera faire. Et leur grand émir, c'est leur leader qui est en Égypte. Ce sont les successeurs de Hassan al-Banna. Les successeurs de Hassan al-Banna. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a un successeur, et ainsi de suite. Et cette façon de faire, ils l'ont hérité des soufis. Parce que Hassan al-Banna, il a ramené cet enseignement qui qui est faux, de là où il devient, c'est-à-dire le soufisme. Et Mohamed Ilyas Kandahlaoui, le fondateur des frères musulmans, des Jama'at al-Tabligh, il a ramené ça aussi de là où il vient, c'est-à-dire des confréries soufis. En général, il se contente d'une seule confrérie. Lui, Al-Kandahlaoui, il a dit, moi j'en ai quatre, à plusieurs. Puisque les soufis disent qu'il y a autant de chemins qui mènent à Allah que le nombre de créatures. N'importe qui peut inventer un chemin. N'importe qui peut prendre un chemin et il dit qu'il emmène les gens vers Allah. Et ils ont dit que ce que nous on étudie, quand on étudie le Coran, on étudie le Hadith, on étudie la prière, Tahara, Zakat, Somme, le Hajj, ils disent ça c'est ce qui apparaît de la Sharia. Mais ce n'est pas le plus important. On en a besoin, mais ce n'est pas le plus important. Il te faut des professeurs qui t'enseignent cela, mais ce n'est pas la finalité. Mais il te faut un maître qui te prend par la main et qui t'emmène vers Allah. Donc il faut que tu étudies la religion et puis au même moment tu vas vers des maîtres de confréries soufis qui eux vont éduquer ton âme par une certaine spiritualité pour t'emmener vers Allah Azza wa Jal. Des enseignements que jamais le prophète n'a enseigné. Le prophète a tout enseigné. Il a enseigné la spiritualité. Il a enseigné le travail intérieur, le travail extérieur, qui vont de pair. Allahul Musta'an. Donc, de rester unis autour de la corde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cramponné au câble d'Allah, azza wa jal, qui est la religion, al-Qur'an, wa sunnah. Il n'a pas dit de rester réunis, de se cramponner. Non, autour du câble d'Allah, Azza wa Jal. Comme Allah nous dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Il n'a pas dit wa'tasimu jami'an bihablillahi. Parce que d'être unis, si ce n'est pas autour de principes clairs, ça veut dire qu'on est réunis que physiquement, mais intérieurement, chacun où est-ce qu'il est. Et ça, ce n'est pas une véritable union. La véritable union, c'est l'union des cœurs. On est sur la même voie, le même chemin, réellement. Et rien ne passe devant la parole d'Allah et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut se méfier des prêcheurs du faux, des prêcheurs de l'égarement. Méfiez-vous des beaux parleurs. Vous croyez que c'est du miel, mais c'est un poison qu'il y a dedans. Méfiez-vous. Ne croyez pas que quelqu'un va venir vous dire dès le premier jour, je vais vous arnaquer. Ça n'existe pas. Même dans ce bas monde, un voleur ne te dira pas, je vais te voler. Il va tout faire pour te voler, chercher un moyen de te voler, mais ne te dira pas clairement. Subhanallah. Et bien dans la religion, ils agissent de la même manière. Jamais, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, si le faux il était présenté comme tel aux gens, personne ne l'accepterait. Mais il faut le maquiller. Il faut l'habiller par du vrai. Comme ça, les gens, quand ils voient que ce côté vrai, et à l'intérieur, c'est le faux qui s'y trouve. Et parfois, quand des gens vont t'avertir, tu ne verras même pas, tu n'arriveras pas à comprendre. Mais je ne comprends pas, ça a l'air d'être bien. Mais lui, il a compris que ce n'était pas bon. Peut-être que toi, tu le verras plus tard. Et combien de fois ça arrive ? Subhanallah. Donc les prêcheurs du faux, il faut s'en méfier. Et Dajjal, le grand antéchrist, hein, le grand menteur antéchrist, quand il viendra, beaucoup de monde ira vers lui. Vous imaginez, il dit à la pluie de tomber, la pluie elle tombe, les gens ils vont dire, mais subhanallah, si c'était un menteur, pourquoi Allah il lui permet ça? Comment ça se fait qu'il arrive à faire tomber la pluie? Il arrive vers des gens, vous croyez en moi? Oui, ça y est, la pluie elle tombe, il y a la récolte, les bêtes elles sont rassasiées, il y a du lait, il y a tout ce qu'il faut. Il vient vers des gens, vous croyez en moi? Non, tu es le menteur, c'est la sécheresse, les bêtes elles meurent, elles n'ont plus rien à manger. Subhanallah, combien de gens se font prendre par ce qui apparaît ou par le côté matériel des choses? Ce sont des épreuves pour voir le véridique du menteur, du vrai du faux. Combien? Le prophète a dit même, retenez vos femmes et vos enfants. Ils vont vouloir y aller. Faites en sorte de ne pas les laisser. Et ne faites pas la personne courageuse, je vais aller le confronter. Non. Quand vous entendez parler de Dajjal, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. C'est une fitna. Tu n'es même pas sûr. Tu n'as aucune garantie comment tu vas finir si tu vas vers lui. Subhanallah. Et quand on voit les gens, dans comment facilement ils tombent dans des choses, alors que dire quand le Dajjal va arriver, subhanallah. Donc il faut se méfier. Il y a des principes. Je ne dis pas que la personne, elle ne peut pas tomber dans... Elle peut tomber, mais au moins elle a fait les efforts. Et celui qui fait les efforts sincèrement, Allah est témoin de ses agissements et de la sincérité qui est dans son cœur. Mais combien de personnes ne font aucun effort? Parmi les efforts à faire, je ne connais pas la personne, je ne sais pas qui elle est, je ne la juge pas. Mais à ce moment-là, je me préserve. Je ne prête pas l'oreille, je ne vais pas vers lui. Puisqu'il a pris les devants, il parle de la religion, je ne sais pas. Il est bien, il n'est pas bien, à ce moment-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je me renseigne. Je me renseigne dessus. Voilà. Ça, combien de gens ne le font pas? Alors qu'ils le savent. C'est une action que je fais dans le domaine mondain. Il y a des gens qui le font pour le médecin, qui le font pour le mécanicien, qui le font pour le boulanger, qui le font pour le boucher. N'est-ce pas? Ils demandent et ils cherchent encore plus dans ta religion. Comme a dit Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. » Cette science est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. Ça, c'est important. Tu n'es pas un cobaye. Tu n'es pas un cobaye. Il y a des gens qui disent, non mais il a cette confiance en soi qu'ont les gens, elle est dangereuse. Et elle va amener les gens vers leur perte. Comment tu peux dire, j'ai confiance en moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, et qui est, Allah lui a donné l'infaillibilité. Et avec cela, il demande à Allah de ne jamais le laisser s'en remettre à sa propre personne. Subhanallah. Lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullah, wa la takinni ila nafsi tarfat 'ayn. Même pas le moment du clignement de l'œil. Vous avez vu comment c'est rapide le moment du clignement de l'œil? Même pas ce moment-là. Jamais tu ne me laisses à ma propre personne. Il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Les gens pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, que c'est eux qui décident, qu'ils ont la garantie. Quand la personne en arrive à ce stade-là, c'est qu'il est à craindre pour elle. Wal'iyadu billah. Ça ressemble à cet homme, Qaroun, quand les gens lui ont dit, ne sois pas trop fier, et remercie Allah qui t'a donné. Il a dit, non, c'est moi-même, c'est le fruit de mon travail. C'est moi qui ai ramassé toutes ces richesses. Subhanallah. À la fin, il a été englouti sous terre, lui et ses richesses. Et ceux qui voulaient lui ressembler, lorsqu'ils ont vu les résultats, ils ont remercié Allah de ne pas avoir été à sa place. Subhanallah. Il faut faire attention. Donc, d'aller sur Internet, sur YouTube, les réseaux sociaux, je vais regarder, je vais vérifier. Il se rend malade toute la nuit, il n'a pas dormi, en écoutant toutes les déviations, tout ce qu'il ne faut pas. Puis le matin, il vient embêter les gens. Hey, tu savais qu'il y avait ça? T'avais entendu parler de ça? Il vient rendre malade les gens. Ça ne lui suffit pas sa maladie à lui. Il veut contaminer les autres. Wal'iyadu billah. Ou il vient dire, comment ça se fait que personne n'a répondu à ces ambiguïtés? Mais qui t'a dit de les écouter, ces ambiguïtés déjà? Subhanallah. Tu crois que les gens, ils ont que ça à faire, de perdre leur temps? Tu crois que les gens, ils ont étudié toute la science religieuse, tout ce qui est bon à apprendre, pour aller perdre leur temps dans ce qu'il ne faut pas? La religion n'est pas un jeu. Subhanallah. Ou d'entrer dans des polémiques. Ouais, j'ai réponse à tout. Parce qu'il a gagné 2-3 débats, ça y est, il y prend goût. D'y prendre goût au débat, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à la base, on ne débat pas. Les gens de la droiture, lorsqu'ils ont débattu, c'est parce qu'ils ont été contraints de débattre. Mais ce n'est pas quelque chose de recherché. Et c'est pour cela que dans les livres, des fondements d'Ahl Sunnah, il y a un chapitre, et souvent il a la fin, chapitre de l'interdiction de débattre. Pas de débat dans la religion. La religion n'est pas le fruit d'un débat. J'ai débattu, bon, en fin de compte, la vérité c'est que non. Allah a révélé le Coran, le prophète nous a dit. Comme l'imam Malik, rahimahullah, l'homme qui vient le voir, « Oh imam, je veux débattre avec toi. » Il lui a dit, « Qu'est-ce qu'il y a si je gagne ? Je te suivrai. Si tu gagnes, tu devras me suivre. Si nous deux, on rencontre quelqu'un, il nous bat dans le débat. Eh bien, nous deux, on devra le suivre. » Il lui a dit, « Donc, notre religion, du jour au lendemain, elle sera amenée à bouger. Un jour, on est là et un jour, on est là. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi. Moi, je suis sur une certitude de ma religion. Moi, je n'ai aucun problème. Moi. C'est une certitude. Subhanallah. » Il y en avait un qui s'appelait Abdullah al-Qasimi, à peu près, on va dire, en 70 ans, 80 ans en arrière. Il était de Najd, en Arabie. Il a écrit des livres sur le tawhid. Il était connu. Il est parti en Égypte. Il est rentré dans des débats avec des philosophes, avec je ne sais qui. À la fin, il est devenu athée. A'udhubillah. Il a fini athée. Wallahu al-musta'an. Il est connu, Abdullah al-Qasimi. A'udhubillah. Les savants de l'époque, ils ont réfuté... Et ils ont démontré, clarifié sa situation. Ça, c'est. Il faut voir ce qu'il est arrivé à ces gens-là. Subhanallah. Pour finir athée. Subhanallah. Il faut arrêter. La religion n'est pas basée sur ça. Regardez les savants. Est-ce que les savants, ils sont là à dire je veux débattre, je veux pas débattre? Non. Si les savants qui ont le savoir ne le font pas, mais comment toi tu oses le faire? Ce shaitan a eu raison de toi. Il t'a fait croire des choses. Et toi, tu t'es cru à la hauteur. C'est toi-même. Avant les gens, l'imam Malik rahimahullah a dit, je n'ai pas fait de fatwa jusqu'à que 70 savants de Médine m'ont dit, tu es capable de faire. Subhanallah. Ça se trouve que lui-même, il se voyait capable. Mais ce n'est pas à toi de dire, je suis capable. Laisse les gens de vertu, les gens de science témoigner pour toi. Subhanallah. Ça, c'est les grands hommes. Et Allah dit, voilà, tu zekou anfusakum. Ne vous faites pas vos propres éloges. Huwa a'lamu biman ittaqa. C'est lui qui sait, vraiment celui qui fait preuve de piété. والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها et de s'en remettre, de chercher le jugement auprès des enseignements du message venu que nous a rapporté le messager صلى الله عليه وسلم dans toutes les questions. Et d'avoir une obéissance et un suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines, petits soient-ils ou grands. Cette obéissance et ce suivi qu'on donne au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aucun homme ne le mérite. Il est unique là-dessus. Et combien donne cette obéissance et ce suivi à autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Tu leur dis, le prophète a dit, il dit, oui, mais l'imam, il a dit. Ça existe, oui. Yani, tu lui dis le rasoul, lui, il te dit, l'imam, il a dit. Le shir, il a dit. Mais dans la télé, ils ont dit. Un frère, il a dit. Et toi, tu lui as dit quoi? Qala rasoulullah. Ça veut dire que la personne, elle ne sait même pas la place du prophète. Sallam. Il ne sait même pas que c'est d'une gravité énorme. Ce qu'il vient de commettre. Lorsque ce compagnon Abdullah ibn Abbas, un homme, il vient lui poser une question sur le hajj, le pèlerinage. Il lui répond avec un hadith. La réponse est un hadith du prophète. L'homme, il lui dit, mais Abu Bakr et Omar ne disent pas comme ça. L'homme cite les noms des meilleurs des hommes après les prophètes. Abu Bakr et Omar. Mais Abu Bakr wa Omar, on n'a pas le droit de les citer pour contrer la parole du prophète. Si on ne peut pas le faire avec Abu Bakr et Omar, mais qui derrière, après eux, on ne peut citer, subhanallah. Et il lui dit, je te dis, le messager d'Allah a dit, et tu me dis, Abu Bakr et Omar ont dit, je crains que des pierres vous tombent des ciels sur vous. Subhanallah. Je crains que des pierres vous tombent du ciel. Comment oses-tu contrer, repousser la parole du prophète sallam en me disant qu'Allah Abu Bakr et Omar, alors qu'Abu Bakr et Omar sont les meilleurs hommes après le prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de revenir à lui et à son messager lorsqu'il y a divergence, lorsqu'on n'est pas d'accord. Ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que dans sa création on en arrivera à cela. Il arrivera qu'on ne soit pas d'accord. Il arrivera qu'on divergera. Ce n'est pas là où il y a le grand problème. C'est la suite. Comment on se comporte? Est-ce qu'on cherche le véritable remède ou pas? Est-ce qu'on cherche réellement la réponse ou pas? Un grand savant comme l'imam, c'est un grand savant qui est mort il y a une quarantaine d'années ou un peu plus, à peu près 45 ans, le cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi, rahimahullahu ta'ala, un grand savant yéménite, rahimahullah, et il a dit que parmi les sagesses pour laquelle qu'Allah a fait que des savants de la guidée, des imams de la guidée se trompent. Quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi Allah ne leur permet pas de ne pas se tromper, puisqu'ils sont dans le droit chemin? Et pourquoi ils peuvent se tromper et ils se trompent dans des questions? Il a dit parmi les sagesses de cela, c'est quoi? C'est qu'Allah éprouve les gens pour voir est-ce qu'ils suivent la vérité ou ils suivent l'homme. Il s'est trompé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et si tu es un vrai suiveur de la vérité, avec tout le respect, mais il s'est trompé là, je reviens à la vérité. Si tu dis, non, c'est pas possible qu'il s'est trompé. Ah, tu n'étais pas un suiveur de vérité. Tu n'as suivi la vérité pas parce que c'était la vérité, parce que c'est lui qui l'a dit. Subhanallah. Donc l'aveuglement, c'est dangereux. Il ne faut jamais être aveuglé. Le suivi qu'on donne aux prophètes, on ne le donne à personne. Et c'est pour cela que les premières générations, ce sont les meilleurs dans tous les domaines. Et même dans ce domaine-là, jamais les tabi'in, alors qu'ils avaient face à eux les meilleurs des hommes, les sahaba, jamais ils n'ont eu un attachement aveugle pour un compagnon parmi les compagnons. Et ils ont dit, on prend de lui et c'est tout, on prend plus de personne. Pourquoi? Parce qu'aucun compagnon ne les a éduqués à cela. Ils les ont éduqués à suivre le Coran et la Sunna. Subhanallah. Et les atba'a tabi'in n'ont jamais eu cela envers les tabi'in, qui étaient les meilleurs hommes après les compagnons. C'est plus tard, lorsque les siècles sont passés, que les gens se sont adonnés à des choses que les premiers ne connaissaient pas. Ne connaissaient pas. Les gens, par exemple, qui ont un attachement aveugle pour l'imam Malik, pour l'imam Ahmed, pour l'imam Shafiri, pour l'imam Abu Hanifa. Est-ce que Abu Hanifa, il était Hanafi? Je vous pose la question.
Non.
Est-ce que Shafi'i, il était Shafi'i?
Non.
Est-ce que Ahmed, il était Hanbali?
Non.
Est-ce que Malik, il était Maliki? Dans le sens qu'on a aujourd'hui? Non. Subhanallah. Et Malik, a-t-il pris un homme et il s'est attaché à tout ce qu'il dit à lui tout seul? On vous cite même tous les enseignants qu'il a eus. Et ils ont appris de beaucoup de monde. Subhanallah. C'est-à-dire que cette façon de comprendre les choses qui est venue après, elle n'existait pas à leur époque. Ils ne connaissent pas. Et jamais ils ont appelé à cela. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en garde leurs disciples. Au cas où, si jamais le hadith, il vous vient authentique, c'est ce que j'aurais pris. C'est mon chemin. Ça veut dire que si plus tard, vous avez une opinion de moi, et on vous ramène un hadith du prophète sallam, ne rejetez pas le hadith. Et c'est ce qu'ils font. Mais il y en a qui le font, chacun comment il s'y prend. Non, mais c'est pas possible, c'est un grand imam. Ça ne peut pas lui échapper. Et cette façon de parler, elle vient d'où? Pourquoi tu penses que tu parles d'un prophète qui lui est révélé d'Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Et le fait qu'il ignore une chose ne le rabaisse pas. Subhanallah. L'imam Malik rahimahullah, un jour, il est questionné sur les ablutions. On lui demande, est-ce qu'on doit passer le doigt entre les orteils, les doigts du pied? Il a dit non. Un de ses élèves, Ibn Wahb, rahimallahul jami'a, il est présent. Il attend que l'assise elle se termine, il va le voir. Et il lui dit au imam, j'ai un hadith là-dessus. Il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, un tel m'a rapporté d'après un tel jusqu'au prophète, sallam, comme quoi il passait l'auriculaire, le petit doigt hein, de la main, l'auriculaire, entre les orteils. Lorsque l'imam a entendu la chaîne de narration, il a dit, elle est bonne cette chaîne de narration. Les narrateurs, ils sont bons. Et Ibn Wahb a dit, plus tard, la question lui fut posée et il a répondu avec le hadith. Il n'y a aucun souci, aucun problème là-dessus. De revenir à la vérité est un honneur. C'est une élévation. Le problème n'est pas de se tromper. Le problème, c'est de persister dans son erreur. Et de ne pas reconnaître son erreur. C'est ça le problème. Mais sinon, comme a dit le prophète, sallam, kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam se trompent. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui reviennent, qui se repentent à Allah, Azza wa Jal. Alors les gens, ils trouvent tout moyen. Non, mais chez nous, on a nos savants, on a nos chouyours, on n'a pas besoin des autres. C'est une phrase qui ne veut rien dire. C'est pourquoi? Parce que les frontières, elles stoppent. Donc s'il y a un savant, un imam de l'islam, l'autre côté de la frontière, parce qu'il est de l'autre côté de la frontière, on n'a pas le droit de prendre de lui. Il a un savoir, on ne profite pas de lui. Ça ne veut rien dire, ce genre de phrase. Non, mais on a nos savants à nous. Pourquoi l'imam Malik? Puisque vous dites que vous êtes malikite au Maghreb et en Afrique, n'est-ce pas? On dit qu'on est malikite. Tayyib. L'imam Malik n'était pas maghrébin. L'imam Malik n'était pas africain. L'imam Malik n'a jamais quitté sa région. L'imam Malik, il est de Médine. D'accord? Donc il est du Hijaz, de l'Arabie, de la péninsule arabique. Donc comment se fait-il que vous prenez les enseignements d'un homme qui est à Médine? Subhanallah. Tayyib. L'imam Malik, vous dites, vous le respectez? Oui. Vous l'aimez? Oui. C'est un grand savant? Oui. C'est un grand imam? Oui. Pourquoi vous ne prenez pas dans la croyance? On prend de l'imam Malik dans la façon de prier, de faire les ablutions, de faire la zakat, de faire le jeûne, de faire l'ibadat ou le mu'amalat. Mais fait l'aqidah? Non, on est ash'ari. C'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'aqidah de l'imam Malik? C'est ajib. Vous êtes satisfait de l'imam Malik dans la pratique religieuse? Mais vous ne voulez pas de sa croyance. Non, on est Ash'ari. Tayyib. Abu al-Hassan al-Ash'ari. Auquel il s'affilie. Il est maghrébin?
Non.
Il est africain? Non, c'est un irakien. Donc la aqida, vous êtes parti la chercher en Irak. Le fiqh, vous êtes parti le chercher à Médine. Et vous dites aux gens, nous on ne prend pas ce qui vient de Médine aujourd'hui. On ne prend pas ce qui vient d'Arabie. Et le prophète Mohammed, avant tout, le prophète Mohammed, il habitait où? À Mecca et à Medina. Subhanallah. À Mecca et à Medina. Donc il faut arrêter des phrases qui ne veulent rien dire. Mais les gens se donnent raison. Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Nous aussi. C'est pas, il n'y a pas de nationalisme ni de régionalisme là-dessus. Tant que ce sont des savants, des machaïrs, de la guidée, de la droiture, dans le droit chemin, c'est ça l'essentiel. Subhanallah. Et quand l'imam Malik, rahimahullah, des gens venaient d'Andalousie, venaient du Maghreb ou venaient d'Asie pour lui poser des questions, il ne leur disait pas, ah non, je n'ai pas le droit de vous répondre. Il faut demander aux gens de chez vous. Subhanallah. Il ne connaît cette façon de... Il répondait aux gens. S'il avait science pour pouvoir leur répondre, il leur répondait. Lorsqu'il ne connaissait pas la réponse, il leur disait, je ne sais pas. Et il est connu l'histoire de l'homme qui lui a dit, quand l'imam Malik a répété à plusieurs reprises, je ne sais pas. Et l'imam Malik à la fin lui a dit, retourne chez tes proches et dis-leur que la adri, je ne sais pas, est la moitié de la science. Nisful ilm, la adri. Wallahu al-musta'an. ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية وبذلك لا بغيره يجتمع شمل المسلمين. Et de s'éloigner de toute innovation, d'opinion mauvaise et de péché, c'est en agissant ainsi qu'on pourra réunir tous les rangs des musulmans sur cette vérité, le suivi convenable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وتقوم وحدتهم المنشودة ويصدق عليهم جميعا أنهم معتصمون بحبل الله. Et c'est là qu'ils pourront réellement être unis et avoir l'union tant recherchée et qu'ils seront véritablement unis autour du câble d'Allah Azza wa Jal. وَهَذَا الْوَاقِعُ هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ اللَّهُ. Voilà la réalité que veut pour nous Allah Azza wa Jal. وَكَلَّفَ بِهِ الْأُمَّ الْإِسْلَامِيَّةِ. Et c'est ce qui était demandé, ce qu'a demandé Allah tabaraka wa ta'ala, a ordonné à la communauté musulmane. La al-wahadat al-siyasiya ma ihtilaf al-aqaid wal-masharib wal-itijahat fa inna hadha al-lawn min at-tajmi'i law tamma wa huwa ba'id yantabiqu 'alayhi qawlullah ta'ala tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ce n'est pas les unions là ou les réunions qu'il y a entre les partis ou les mouvances politiques ou autres qui ne sont intéressés que par le côté physique de l'union, quelles que soient les croyances et les dogmes qu'ont les gens, quelles que soient les directions suivies par ces gens, cette façon d'unir qui n'est pas la façon islamique, même si elle devait avoir lieu, et c'est un objectif lointain, jamais ne pourront. Jamais on ne pourra unir entre des contradictions. Mais cela entre dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, tu crois qu'ils sont unis alors que leurs cœurs sont éparpillés. Comme Allah l'a dit sur les juifs, hein, lorsque on les voyait ensemble, mais en réalité intérieurement, chacun où est-ce qu'il était, ils étaient éparpillé. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.